Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors au fur et à mesure qu'approche l'échéance, le climat de la campagne électorale aux États-Unis se tend.
Oui, à 2 mois de l'élection, les sondages donnent une avance relativement confortable aux candidats démocrates. 50% d'intention de vote pour Joe Biden contre 43% pour le président sortant. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours. D'abord parce que l'écart a eu tendance à se réduire ces dernières semaines. Ensuite, parce que les sondages accordaient la victoire à Hillary Clinton en septembre 2016. Et on connaît la suite. Reste qu'aujourd'hui, encore plus qu'il y a 4 ans, l'atmosphère politique aux États-Unis est, disons-le, pestilentielle. Certains commentateurs n'hésitent pas à la comparer à celle qui présida à la guerre de sécession qui fit, rappelons-le, 620 000 morts aux États-Unis. Comme alors, la polarisation politique est inouïe. Chacun des deux camps en présence est absolument sûr de son bon droit et prête à l'autre les intentions les plus diaboliques. La démocratie repose, écrit Alexander Cohen dans The Conversation, sur la légitimité de gouverner reconnue au vainqueur des élections. Or, le résultat des présidentielles de novembre 2020, quel qu'il soit, va exaspérer près de la moitié des Américains, au point qu'on peut se demander si une partie significative de l'électorat ne risque pas de refuser au vainqueur sa légitimité. Selon le politologue Shane Westwood, lors des présidentielles de 1988, c'est pas si loin, qui opposèrent, on s'en souvient, George Bush à Michael Dukakis, l'électorat considérait généralement l'autre camp avec respect. Les électeurs jugeaient que les deux candidats cherchaient à améliorer la vie des Américains. Par contraste, les candidats d'aujourd'hui sont tous deux décidés à canaliser à leur avantage une colère. Joe Biden, la colère que provoque Trump, et Trump, la colère qu'éprouve la classe moyenne blanche. Celle-ci s'inquiète en effet du déclin de son influence. Pour la première fois de son histoire en cette rentrée, les Blancs ne seront plus majoritaires parmi les élèves du primaire et du secondaire aux États-Unis, ce qu'on appelle le K-12. L'immigration en provenance d'Amérique centrale se poursuit. 45 millions d'habitants des États-Unis actuels sont nés dans un autre pays. Or, la politique américaine est littéralement obsédée par les identités ethniques ou sexuelles. La corrélation entre animosité raciale et identification idéologique et partisane est à son plus haut degré d'incandescence, écrit notamment Thomas Hetzel dans le New York Times.
Mais alors Brice, qu'est-ce qui fondamentalement distingue les deux électorats?
La base électorale du Parti républicain, elle n'a guère changé en un quart de siècle. 88% étaient des chrétiens blancs en 1984, 75% de ces électeurs actuels sont blancs et chrétiens aujourd'hui. Mais le Parti démocrate, lui, a beaucoup changé. Pensez que 38% de ses électeurs se déclarent à présent sans affiliation religieuse. Et il est devenu le grand parti des minorités ethniques. Du coup, il est aussi plus diversifié que le Parti républicain. On croyait la guerre des cultures terminée par une victoire nette de la gauche sur les questions de société telles que le droit à l'avortement ou le mariage homosexuel, mais voilà qu'elle ressurgit, selon le politologue conservateur Daniel Henninger, dans une tribune du Wall Street Journal de la semaine dernière. Trump croyait jouer sa réélection, écrit-il, sur l'éclatante santé économique des États-Unis à la veille de l'épidémie de coronavirus, mais les mesures adoptées pour la contenir ont fait plonger l'Amérique dans la récession. Le chômage, hier encore au plus bas, est reparti à la hausse et Trump a dû chercher un nouveau thème de mobilisation. Il fait désormais campagne pour la loi et l'ordre, capitalisant sur la peur qu'inspirent à nombre d'Américains les dérapages qui ont parfois suivi les manifestations Black Lives Matter. Le propre des guerres culturelles, c'est qu'elles mettent en jeu, bien au-delà de simples divergences d'opinion, des systèmes de valeurs complets. La guerre culturelle du moment a pour épicentre Portland, Oregon. La ville compte l'une des universités les plus politisées des États-Unis. Le maire, Ted Wheeler, démocrate modéré, est devenu la cible de Trump pour n'avoir pas su empêcher que les manifestations ne dégénèrent, comme dans d'autres villes américaines, en incendies et en pillages. Trump se présente désormais comme seul capable de ramener la sécurité dans une Amérique au bord de la crise de nerfs où des deux côtés on se hait et on s'arme. On n'a jamais vendu autant d'armes que ces dernières semaines aux États-Unis. La guerre de sécession fut déclenchée, on s'en souvient, par le refus des États du Sud de reconnaître le résultat des élections présidentielles de 1860. Leurs dirigeants n'ignoraient pas que l'intention du vainqueur, Abraham Lincoln, était de mettre fin au scandale de l'esclavage. Eh bien aujourd'hui, c'est le président sortant qu'on soupçonne de ne pas reconnaître sa propre défaite probable. Il soupçonne des irrégularités dans le dépouillement du scrutin et il met d'avance en cause le vote par correspondance. Cette dramatisation a évidemment pour but de rameuter ses propres électeurs, mais elle contribue à cliver davantage encore le peuple américain.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. On vous retrouve demain.